Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « Les adultes de demain » dédié à l'éducation des enfants et la parentalité. Les adultes de demain, c'est une conversation entre d'un côté une mère, Sylvie Desclèbes, 5 enfants, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, éducatrice, créatrice d'un organisme de formation et écrivaine dans l'éducation. Et de l'autre côté, sa fille, c'est moi, Stéphanie. J'ai été élève avec mes frères et sœurs dans l'école Montessori de mes parents, de la maternelle jusqu'au bac. Du haut de mes 27 ans, je me suis toujours rendu compte que cela faisait de nous des profils assez particuliers, suscitant de nombreuses interrogations. Non seulement car je suis un pur produit de ces pédagogies dites positives, très à la mode depuis peu, mais surtout parce que j'ai grandi dans un environnement dédié à l'éducation des enfants. C'est pour cela qu'on a décidé, avec Sylvie, ma mère, de créer ce podcast et d'utiliser notre histoire pour répondre à ces interrogations sur les enfants d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain. Chaque semaine, j'interrogerai Sylvie, une experte de l'éducation, et mère et grand-mère épanouie pour aborder des grands thèmes en lien avec l'éducation et la parentalité, pour comprendre les évolutions de la société, les opportunités, les inquiétudes, les interrogations de jeunes adultes comme moi, de parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Nous inviterons également des experts pour partager leur expérience sur des sujets qui nous passionnent. Alors, merci pour votre soutien et bonne écoute sur les adultes de demain. S'il y a bien un sujet que l'on devait aborder en priorité, c'est bien celui de la pédagogie Montessori. On l'entend récemment sur toutes les bouches, cette mode des pédagogies positives, dans des documentaires, des articles de presse, émissions de radio, produits labellisés Montessori, et j'en passe. Il existerait maintenant des centaines d'écoles Montessori en France, et mes parents ont fait partie de ces pionniers qui ont créé leur école il y a plus de 30 ans. Il nous semblait donc important, voire essentiel, de rentrer dans le détail de ce qui fait vraiment une école Montessori. Car oui, il y a des dérives, mais aussi des préjugés. Quelles sont les particularités de cette méthode? Que deviennent les enfants issus de ces pédagogies? Comment choisir une bonne école Montessori? Mon enfant sera-t-il marginalisé en allant en école Montessori? Nous essaierons de balayer ces grands questionnements autour de cette pédagogie, parfois énigmatique. Et avec Sylvie comme experte, je suis sûre que nous sommes entre de bonnes mains pour apporter quelques réponses essentielles à la compréhension de cette pédagogie. Alors ma toute première question. Avant toute chose, la pédagogie Montessori descend d'une femme qui a marqué son temps, Maria Montessori. Tu as dû lire des dizaines et des dizaines de livres sur ce sujet. Est-ce que Sylvie, tu peux nous donner les grandes lignes de sa vie?
Oui, alors Maria Montessori, est une femme italienne qui est née en 1870. Donc, elle a grandi à Rome. Et quand elle a dû choisir ses études, contrairement à beaucoup de femmes, elle a choisi des études scientifiques. Elle a choisi d'être médecin, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque, il n'y avait que des hommes. Et donc, elle est devenue une des premières femmes médecins italiennes en Italie. Et elle a commencé à travailler avec les enfants handicapés. Donc, elle les a beaucoup étudiés. Elle avait travaillé aussi sur les travaux de Itard et Seguin. Et elle a mis en place du matériel pédagogique auprès de ses enfants handicapés qui, peu à peu, se sont mis à réussir des examens comme des enfants dits normaux. Donc, elle s'est dit, si ça fonctionne avec les enfants handicapés, ça devrait fonctionner très bien avec ses enfants dits normaux. Et elle a continué à étudier l'anthropologie, elle a fait des séjours en France pour traduire les travaux de Itard et Seguin. Et un jour, un promoteur immobilier lui a confié ce qu'elle a appelé la Casei dei Bambini au quartier San Lorenzo. En fait, c'était un quartier de Rome qui avait été construit par ce promoteur. Et pendant que les parents travaillaient, les enfants dégradaient tous les immeubles, etc. Donc, il s'était dit que ce serait une bonne idée de regrouper ses enfants dans une pièce. Et Maria Montessori a accepté ce challenge justement pour mettre en place ce qu'elle avait déjà créé auprès des enfants qui, soi-disant, ne s'intéressent à rien, étaient inintelligents, etc. Et cet endroit est devenu un véritable laboratoire scientifique où elle observait tout ce qui se passait, le matériel qu'elle mettait en place, comment les enfants réagissaient, etc. Et c'est là qu'est née sa pédagogie et elle s'est mise à écrire de nombreux livres et à voyager aussi dans le monde pour faire connaître sa pédagogie. C'est alors que la guerre est arrivée et Mussolini a décidé que ces écoles devraient devenir des écoles mussoliniennes. Et donc, elle a refusé. Donc, toutes ces écoles ont été fermées et elle est partie en Espagne. À ce moment-là, Franco est venu au pouvoir. Et là aussi, elle est obligée de s'enfuir. Et elle est partie en Angleterre, puis en Hollande. Et lorsqu'elle était en Hollande, elle est partie en Inde. Et elle a été assignée à résidence pendant 8 ans avec son fils. Et là, elle a observé encore énormément les enfants en Inde. Et c'est là aussi qu'est née sa pédagogie pour les enfants les plus petits. Donc, tout au long de sa vie, elle a observé les enfants partout dans le monde où elle allait et petit à petit, elle écrivait des livres pour mettre en place cette pédagogie. Elle faisait des formations, elle faisait des conférences. En fait, elle était connue du monde entier.
Et ce que tu as oublié de mentionner, c'est qu'elle a également été nominée plusieurs fois pour le prix Nobel de la paix, non ?
Ah oui, elle a été nominée 2 fois pour le prix Nobel de la paix. Et c'est aussi quand elle était jeune femme qu'elle a participé à la campagne menée en faveur des droits politiques et sociaux des femmes. Donc elle était très, très avant-coureur dans ses idées.
Et donc, si on revient un petit peu sur la pédagogie qu'elle a créée, est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les grands piliers sur lesquels repose cette pédagogie? On parle beaucoup d'épanouissement personnel, de bienveillance. Est-ce que tu peux nous dire concrètement quels sont les grands principes?
Alors, certains grands principes, déjà de base, c'est qu'elle a observé que chaque enfant est différent, que chaque enfant évolue à son rythme. Elle a découvert quelque chose qu'elle a appelé les périodes sensibles. Donc, ce sont des périodes pendant lesquelles l'enfant est doté d'un esprit absorbant et qu'il absorbe tout ce qui lui est présenté pendant cette période sensible si on le présente au bon moment. Donc ça, c'était très important. Et c'est très important aujourd'hui pour les enfants. Ensuite, elle a donc individualisé complètement cette pédagogie. On doit offrir à chaque enfant quelque chose de différent. Sa pédagogie repose aussi sur le développement sensoriel, qui est très très important. L'enfant apprend en manipulant tout un matériel scientifique qu'elle a élaboré pendant toutes ces années, puis que son fils a élaboré ensuite, puisqu'ensuite elle a travaillé avec son fils. Il y avait une notion de liberté dans cette pédagogie. Donc liberté évidemment dans un cadre, mais liberté d'être qui on est, liberté de s'exprimer. Et puis c'était vraiment une méthode pour la paix dans le monde, hein, puisqu'elle a vécu les deux guerres et qu'elle pensait que l'éducation était le seul moyen d'établir la paix sur Terre. Moi j'aime beaucoup cette phrase qui dit « établir la paix durablement est le travail de l'éducation ». la politique ne peut qu'éviter la guerre. Donc elle pensait vraiment qu'en baptisant un enfant nouveau qui deviendrait un homme nouveau, elle contribuerait à établir la paix dans le monde. Elle a redéfini complètement la posture de l'adulte. C'est pour ça qu'on parle de beaucoup de bienveillance, hein, puisque l'adulte a une posture totalement différente de ce qu'il avait à l'époque de Maria Montessori. Et puis, elle mettait en valeur le développement de la concentration qui est indispensable pour les enfants dans leurs apprentissages et de l'autonomie. Et puis, elle a mis aussi beaucoup en avant le désir d'apprendre des très jeunes enfants. On pensait à l'époque que les très jeunes enfants n'avaient aucun goût pour les apprentissages. Et elle a découvert que l'enfant avait une grande soif d'apprendre et que c'était à l'adulte d'établir ce qu'elle appelait un environnement préparé dans lequel l'enfant pouvait puiser tout ce dont il avait besoin pour se construire lui-même. Hein, c'est la construction de l'enfant par lui-même.
Et du coup, en quoi cela différait de l'éducation traditionnelle ?
Alors l'éducation traditionnelle, elle aujourd'hui, est assez différente parce que c'est plutôt une éducation pour tous les enfants au même moment, au même âge. Alors que dans les classes Montessori, les enfants sont mélangés en âge, entre 3 et 6 ans, parce qu'on ne part pas du principe qu'un enfant à 4 ans, il doit faire ça, à 5 ans, il doit faire ça. L'adulte est un observateur. En fonction de ce qu'il observe chez l'enfant, il va placer dans son environnement, lui faire des présentations de matériel qui correspondent justement à ses périodes sensibles et à son besoin d'apprentissage. Et puis les classes sont très différentes dans la mesure où il y a énormément de matériel justement scientifique créé pour le développement des sens, le développement de la vision concrète des choses, de la connaissance du monde, du développement du vocabulaire, etc.
Du coup, ça me fait penser, il est temps qu'on rentre dans l'application concrète de ce qu'est la pédagogie Montessori dans une classe. Et tu as beaucoup évoqué le mot matériel Montessori. On en entend beaucoup parler. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail de ce matériel ?
Oui, alors tout au long de ces expériences-là, elle développait du matériel qu'on a appelé vraiment un matériel scientifique parce que c'était élaboré par cette femme en tant que médecin et donc vraiment fait scientifiquement. Donc tout est calibré, tout est étudié au centimètre près. Donc il y a du matériel pour le développement sensoriel, il y a du matériel pour apprendre les lettres. Hein, tout le monde maintenant connaît les fameuses lettres rugueuses, hein, où l'enfant apprend les lettres en les touchant, les chiffres également. Il y a du matériel pour la géographie, avec les fameuses cartes puzzles qu'on voit maintenant en vente un peu partout. Il y a du matériel pour développer l'autonomie, pour développer les sens, pour tout ce qui est mathématique, puisqu'elle s'était rendue compte aussi que l'enfant avait besoin de manipuler un matériel concret, parce qu'il n'était pas encore dans la phase d'abstraction, et donc il avait vraiment besoin de toucher, de manipuler, pour former dans son esprit une idée de chaque chose. Donc il y a énormément de matériel dans les classes, mais qui est vraiment calibré, qui a été étudié à cette époque par Maria Montessori.
Et donc par exemple, si on veut apprendre à compter à un enfant, comment ça se passe dans le système montessorien versus le système traditionnel ?
Alors, dans le système montessorien, on a énormément de matériel pour apprendre à compter aux enfants. Donc d'abord, on a ce qu'on appelle des barres rouges et bleues. Par exemple, il y en a 10. Donc ça, c'est pareil, c'est très étudié. Chaque matériel de cet ordre-là, il y a 10 pour préparer au système décimal. Ensuite, par exemple, la première barre fait 1 cm, la deuxième en fait 2, la dernière en fait 10. Et là, l'enfant, il va compter 1. Elles s'alternent rouge et bleu, 1, 1, 2. Donc quand il aura compris de 1 à 10 concrètement, il va apprendre la partie abstraite, c'est-à-dire les chiffres, en touchant les chiffres rugueux. Une fois qu'il aura appris les chiffres rugueux, il pourra associer le concret à l'abstrait, c'est-à-dire les barres et les symboles correspondants. Et puis tout ça, ça continue avec énormément de matériel pour introduire le zéro, pour la notion de pair et impair, pour le système décimal. En fait, parce que le matériel, c'est toujours une seule difficulté à la fois, une notion à la fois. Et avec, si possible, pratiquement toujours, l'autocorrection, le contrôle de l'erreur pour que l'enfant puisse se corriger tout seul. Donc en mathématiques, on a énormément de matériel à notre disposition pour les enfants. Et dans les classes de l'éducation nationale plus classique, ils ne disposent pas de tout ce matériel. Un peu de matériel concret, mais très peu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de professeurs des écoles qui se forment à cette pédagogie pour l'intégrer dans leur classe.
Et du coup, concrètement, comment ça se présente dans une classe? Comment l'enfant décide d'aller vers tel ou tel matériel?
Alors d'abord, dans une classe Montessori, il y a des règles, c'est-à-dire que l'enfant ne peut manipuler le matériel que s'il lui a été présenté par l'éducateur. Donc, s'il veut faire quelque chose qu'il ne lui a pas été présenté, on lui dit non, tu peux pas faire ça pour l'instant, tu attends que je te l'ai présenté. Ensuite, il y a une hiérarchie dans le matériel. L'enfant peut pas faire n'importe quoi, il doit y avoir un respect de cette hiérarchie. Donc, s'il veut faire quelque chose qui est beaucoup trop difficile pour lui, on va lui dire, tu vas attendre, tu pourras faire ça quand je t'aurai présenté tel matériel. Ensuite, il a une liberté donc de mouvement et de choix parmi le matériel qui lui a été présenté. Donc il y a plusieurs aires, hein. Il y a l'aire de la vie pratique où on développe surtout l'autonomie de l'enfant, l'aire de la vie sensorielle où il va développer ses sens, les mathématiques, le langage pour le développement du vocabulaire, la lecture, l'écriture, et puis tout ce qui est culture. Donc il peut aller dans ces différentes aires, chercher un plateau, chercher du matériel, s'installer sur un tapis ou sur une table et faire son activité du début jusqu'à la fin, la refaire autant de fois qu'il le désire, mais uniquement si la présentation lui a été faite et s'il le fait correctement. Ensuite, il n'y a qu'un seul matériel par catégorie pour que justement, ils apprennent aussi à attendre.
Et c'est ça qui est important aussi, je pense que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, c'est que bien sûr, vous développez à fond l'autonomie, mais l'objectif n'est pas de faire des enfants individualistes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ?
Non, justement, l'objectif n'est pas de faire des enfants individualistes, parce que c'est pour ça aussi qu'il y a le mélange des âges. Hein. Bon, c'est pour le respect de chaque enfant, mais c'est aussi pour que les grands soient un modèle pour les plus petits. Et souvent, ce sont les grands qui montrent aux plus petits et qui font les choses ensemble. Ensuite, on ajoute des activités collectives, hein, où, par exemple des regroupements sur la ligne où ils sont assis sur le cercle, où on fait des activités communes. Et ça, c'est ce que moi, j'ai aussi développé davantage dans mon école, parce que j'avais peur justement que ce soit des enfants un peu individualistes. J'ai rajouté des activités d'art, de musique, de sport, pour qu'ils apprennent justement à faire les choses ensemble. Et il y a aussi le développement de l'autodiscipline, c'est-à-dire qu'entre eux, on essaye qu'ils arrivent à trouver leurs propres solutions entre eux. Donc, il y a une interactivité entre eux à ce niveau-là également.
Donc, ce qui veut bien dire qu'ils ne passent pas 100% de leur temps sur du matériel?
Non, ils ne passent pas 100% de leur temps sur du matériel. Il y a cette partie de manipulation qui dure quand même pas mal de temps, mais il y a d'autres périodes dans la journée.
Et comment la question qui vient tout de suite, c'est comment l'éducateur il fait pour gérer autant d'âges différents avec autant d'activités différentes?
C'est là que c'est pas facile, hein. Donc nous, on a mis en place une application pour le suivi de chaque enfant, parce que vraiment l'éducateur doit être un observateur, c'est-à-dire qu'il doit savoir où les centres d'intérêt de chacun, là où le niveau de développement de chacun, pour placer dans son environnement le matériel qui va répondre aux besoins de chacun. Donc ce côté observation est extrêmement important. Et le début de l'année est très important, parce que c'est là où on va poser les bases des règles de toute la classe, mais si les bases sont bien posées, il réussira à faire des présentations pendant que d'autres vaquent à leurs propres activités. L'avantage aussi que les niveaux soient mélangés, c'est que l'éducateur ou l'éducatrice garde dans sa classe des enfants environ 3 ans. Donc c'est vrai qu'un enfant qui est là en deuxième année, on le connaît très bien, on sait où il en est. Lui connaît très bien aussi les règles de la classe, connaît beaucoup de matériel, connaît la façon dont on s'en sert. Donc ça, c'est une grande aide aussi pour le suivi individuel de chaque enfant.
Et qu'est-ce qui diffère dans l'enseignement d'un petit en maternelle par rapport à un petit en primaire ? Dans l'organisation de la classe?
Alors, dans l'organisation de la classe, il y a beaucoup de similitudes, hein, puisque les enfants sont aussi mélangés en âge. Donc, nous, on les mélange en âge de 6 à 10 ans, c'est-à-dire tout le niveau primaire. Et là, les enfants aussi ont à leur disposition du matériel pour l'acquisition de tout, en fait, en français, en maths, dans toutes les matières. Ce qui diffère chez nous, c'est qu'on a mis en place des plans de travail pour que justement les enfants soient autonomes. Et là, dans leur plan de travail, ils peuvent également avancer chacun à leur rythme. Mais comme ils savent lire, ils peuvent justement suivre leur plan de travail, savoir exactement ce qu'ils ont à faire. Ils ont des fiches de présentation du matériel pour être justement autonomes aussi dans l'utilisation du matériel. Donc, Il y a beaucoup de similitudes, sauf le fait que l'enfant est à ce moment-là encore plus autonome et peut justement se travailler tout seul.
Ce qui veut dire que l'enfant est complètement maître de son temps et que s'il a envie d'avancer beaucoup plus vite et de terminer son année parce qu'il en a les capacités et la volonté, il peut le faire.
Exactement. Donc nous, nos plans de travail sont calqués sur les programmes de l'éducation nationale. Hein. Donc évidemment, il faut qu'ils aient fait l'ensemble du plan de travail pour aborder l'année d'après, mais il arrive très souvent que des enfants aillent plus vite et qu'ils puissent faire 2 ans en une ou une année et demie, ça dépend des enfants. Puis il y a aussi les enfants qui vont plus lentement.
C'est la question que j'allais te poser du coup.
Voilà, et c'est la question qui vient souvent. Donc les enfants qui vont plus lentement, ils peuvent aussi avoir plus de temps et avoir quand même des bases solides, ne pas courir après le programme, mais justement avoir plus de temps pour avoir leurs acquisitions et arriver au bout quand même.
Et comment du coup tu arrives à aller trouver ces professeurs qui sont capables de gérer ces changements pédagogiques versus ce qu'on a plus l'habitude de voir dans l'éducation nationale?
Alors pour le 3-6 ans donc, et le 6-12 ans, on a la chance d'avoir un organisme de formation. Donc nous, on forme toutes ces personnes et parmi nos stagiaires, on trouve les personnes idéales en fait, avec qui on souhaite travailler et qui nous semblent être les plus appropriées pour les enfants. Donc c'est comme ça qu'on trouve nos enseignants.
Oui, parce qu'en effet, il n'y a pas d'examen public pour devenir professeur Montessori.
Non, c'est ça. C'est ça le souci aussi.
Est-ce que tu pourrais nous parler potentiellement d'un professeur que tu as eu dans une classe qui t'a marqué?
Oh là là, ça c'est difficile comme question. Un professeur dans nos classes qui m'a marqué.
Et qui avait peut-être un parcours assez atypique.
Oui, par exemple, en ce moment, je travaille avec un homme qui s'appelle Thibaut. Et cet homme a une cinquantaine d'années. Et il y a quelques années, je l'ai vu arriver dans ma classe justement en tant que stagiaire en formation qualifiante. Et à côté de ça, c'est un très grand photographe français. Donc je me suis vraiment demandé qu'est-ce qu'il faisait là, parce que je ne comprenais pas vraiment qu'est-ce qu'il cherchait par ce nouveau métier. Et en fait, il m'a expliqué, il m'a dit « moi j'ai un fils et j'ai toujours critiqué l'éducation et je me suis dit qu'il fallait que je devienne actif et non juste critique ». Et aujourd'hui, il travaille avec moi dans ma classe et c'est quelqu'un d'exceptionnel pour les enfants parce que son côté photographe lui donne un sens de l'observation de l'enfant qui est extraordinaire. En plus, sa maman était pédopsychiatre, donc je pense qu'il a hérité de certaines qualités. Et donc, il a un regard tout autre sur les enfants et il ne compte pas son temps parce que je pense qu'en tant que photographe, il doit avoir souvent des charrettes. Donc, il ne compte pas son temps, il donne tout ce qu'il peut. Et c'est quelqu'un de fabuleux, justement, peut-être parce qu'il n'était pas dans l'éducation avant et que c'est un vrai choix de maturité, quoi.
Ouais, c'est une super belle histoire. Pour revenir un petit peu sur certaines autres questions que j'avais sur les bases de la pédagogie, comment tu... En fait, si j'ai bien compris, cette pédagogie, elle est possible qu'avec des petits effectifs ?
Non, pas forcément. C'est une question d'organisation. Moi, dans ma classe, par exemple, avec Thibaut, Marie-Christine, Paul, Marie-Christine n'étant pas tout le temps là, on a 45 élèves. Mais c'est parce que tout est organisé autour pour que justement les enfants puissent puiser dans l'environnement, dans toute l'organisation qu'on a mis en place pour travailler de manière autonome. Alors, chez les plus jeunes, on peut aller jusqu'à 20-22 élèves avec 2 personnes. Mais c'est la même chose, il faut que tout soit vraiment très bien organisé dans l'environnement, que le suivi soit fait au fur et à mesure, que les 2 personnes qui sont ensemble soient habituées à travailler ensemble pour bien se répartir les rôles. Hein, le rôle de l'assistante est très important dans ce cas-là. Alors, c'est sûr que le faire avec 30, c'est compliqué, mais je pense qu'on peut aller jusqu'à 20-22 si, justement, avec ce mélange des âges et avec le fait qu'on garde les enfants 3 années.
Donc, et il y a plusieurs adultes dans une seule classe.
En général, oui, en maternelle, il y a un éducateur ou une éducatrice et un assistant ou une assistante.
Ok, et comment vous faites pour bien suivre les programmes de l'éducation nationale? Parce que ça fait quand même beaucoup de critères à suivre. Donc si en plus vous rajoutez tout ce qu'on vous demande de faire depuis les programmes de l'éducation nationale, comment est-ce que vous faites pour les mettre en place concrètement?
Alors en maternelle, c'est facile. Hein. On a pris chaque matériel pédagogique que l'enfant manipule et on a mis en face l'objectif atteint et demandé par l'éducation nationale. Donc, par contre, c'est vrai qu'en pédagogie Montessori, les enfants vont beaucoup plus loin que les programmes de l'éducation nationale en maternelle, puisqu'en maternelle, en général, ils apprennent à lire, ils apprennent à compter, ils apprennent à faire les quatre opérations. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. En classe élémentaire, moi, c'est un choix que j'ai pris en créant les écoles. C'est que j'ai pris le programme de l'éducation nationale de chaque année, je l'ai partagé en 36 semaines et j'ai établi justement ces plans de travail en fonction des programmes de l'éducation nationale qui, pour nous, sont un minimum et les enfants pouvant aller, évidemment, beaucoup plus loin.
Parce que ce qui est quand même important de rappeler, c'est qu'en fait, on est dans des formats d'écoles privées hors contrat.
Tout à fait.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à une école publique?
Alors, une école hors contrat, ça signifie qu'on ne bénéficie d'aucune aide de l'État et que, justement, les enseignants sont financés par l'école et ne sont pas financés par l'État. Donc, l'avantage, c'est qu'on choisit nos enseignants, on choisit la façon de respecter les programmes, puisqu'il y a la liberté pédagogique aujourd'hui. Mais les écoles, du coup, ont un coût, puisque les salaires, les charges, toutes les charges d'une école sont financées par les frais de scolarité des familles. Donc ça, c'est la différence principale.
Et c'est pour ça qu'on disait que tu étais comme une chef d'entreprise avec ton école privée hors contrat.
Exactement, parce qu'il faut équilibrer.
Ouais. Et est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'école publique Montessori?
Alors, des pures Montessori, je ne pense pas. Par contre, moi, j'ai travaillé avec une commune qui s'appelle, qui est Blanquefort-sur-Briolance. C'est en Dordogne, je crois. Je ne sais plus, tu pourras l'écrire.
Ouais.
C'est une commune avec une maire très dynamique qui avait ses classes qui se vidaient, donc l'éducation nationale allait fermer une de ses classes et elle s'est dit que pour empêcher cette fermeture, elle allait ouvrir une classe publique Montessori. Donc elle a fait former ses profs par notre organisme de formation, elle a fait un financement participatif pour acheter le matériel. Et ils ont ouvert leur classe Montessori publique avec le soutien de leur inspecteur d'académie, puisque ça dépend des inspecteurs aussi. Et ça a été un tel succès qu'elle en a ouvert une deuxième depuis, que les logements se sont tous remplis, qu'il y a eu des ouvertures de nouveaux commerces. Mais ça, c'est très rare. C'est un phénomène ou deux en France, mais il y en a très peu. Mais par contre, il y a de plus en plus de professeurs des écoles publiques et privées sous contrat qui mettent en place la pédagogie Montessori dans leur classe.
Et qui suivent vos formations?
Qui suivent nos formations, qui demandent le mélange des âges dans leur classe, ouais. Qui achètent leur matériel, qui vraiment font quelque chose d'extraordinaire dans leur classe. C'est fabuleux. Hein.
Parce que concrètement, il faut combien de temps pour se former à la pédagogie Montessori?
Alors, tout dépend si on est novice ou si on est professeur des écoles. S'ils sont professeurs des écoles, ils ont quand même pas mal de notions. Mais nous, on a pas mal de professeurs des écoles qui font des formations sur un an, en étant en stage une journée par semaine dans nos classes. Et sinon, il y a des professeurs des écoles qui font nos formations courtes que sur le matériel. Et ils apprennent du coup la mise en place du matériel, les présentations du matériel, et font les choses peu à peu. Moi, c'est ce que je leur conseille. Et puis nous, on se déplace beaucoup dans les écoles sous contrat de l'État, mais les écoles catholiques plutôt. Et là, il y a un organisme de financement qui s'appelle Formiris, qui leur offre, qui leur paye les formations. Et on se déplace dans les écoles pour former les professeurs sur place. Et là aussi, eux, ils demandent des formations sur tel ou tel thème. On peut y aller 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois. Et aussi, ils mettent de plus en plus la pédagogie Montessori en place dans leur classe.
Ok. Et si je comprends bien, là, ça concerne beaucoup les niveaux maternels et primaires. Comment concrètement ça se passe pour le collège et le lycée? Qu'est-ce que vous mettez en place dans les classes? Est-ce que vous mettez en place des formations pour les professeurs là-dessus? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus de Montessori dans le secondaire?
Alors, pour les collèges et lycées, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, il n'existait pas de formation pour le collège et lycée en France. Donc, nous, là, on vient juste de créer une formation collège sur le matériel, surtout de mathématiques et puis un peu de français. Mais donc, c'est pas facile de trouver des enseignants. En revanche, on a la chance de trouver des personnes vraiment motivées pour enseigner autrement. Et c'est comme ça que nous, on a mis en place la pédagogie Montessori en collège et lycée, en gardant surtout les valeurs de la pédagogie Montessori, hein, le respect de chaque enfant, le travail individuel, l'absence des notes sur les copies, beaucoup de travail avec du matériel concret, se centrer sur le besoin d'apprendre de l'enfant, mais trouver les moyens d'apprendre de l'enfant, et aussi surtout la relation entre l'adulte et le jeune.
Tout en passant les examens normaux.
Voilà, c'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est de les préparer le mieux possible aux examens pour qu'ils réussissent, en fait.
Ouais. Ok, merci beaucoup, parce que du coup, on comprend mieux ce que c'est Montessori dans les classes. J'aimerais bien qu'on termine cet entretien sur une application de Montessori à la maison, parce qu'on entend beaucoup parler... la pédagogie Montessori n'est pas uniquement cantonnée à l'école, et notamment on peut l'appliquer à la maison pour l'arrivée du bébé. Donc pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas nécessairement mettre leurs enfants dans une école Montessori, est-ce que c'est une pédagogie qu'ils peuvent appliquer à la maison avec leurs enfants?
Oui, alors tout à fait, parce que bon, ce que je t'ai pas dit, c'est que d'abord, avant toute chose, la pédagogie Montessori, c'est une philosophie. Donc, c'est une philosophie de vie, c'est une philosophie qui implique un grand respect de l'enfant, qui implique une certaine attitude de l'adulte. Aussi, le fait qu'on se dit que l'enfant va se construire par lui-même, par tout ce qu'on va installer dans son environnement. Et donc, ça, tous parents peuvent le faire. Et puis, le développement de l'autonomie, surtout le développement sensoriel, le développement de la confiance en soi. Donc ça, il y a énormément de choses à mettre en place à la maison pour permettre tout cela. Et on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, puisqu'on peut faire du matériel avec deux petits pots et une cuillère et un petit plateau et développer des tas de choses chez l'enfant. Donc, dès tout petit, on peut mettre en place cette pédagogie à la maison en respectant justement les rythmes de l'enfant, en le mettant par exemple sur un matelas par terre pour jouer, pour le laisser en motricité libre.
Il ne tombe pas par terre, l'enfant ?
Ben non, tout petit, il tombe pas, et puis on met un matelas vraiment bas pour que s'il roule, il se fasse pas mal.
Mais il peut se retrouver à dormir sur le sol.
Oui, tout à fait, mais ça c'est pas très grave, ça ne dérange pas trop. Il y a des tas de choses qu'on peut mettre en place pour l'enfant, des images en noir et blanc, des livres en noir et blanc pour développer la concentration, des mobiles ont été développés par des personnes qui travaillent avec Maria Montessori, des mobiles progressifs aussi en fonction du développement de la vue de l'enfant, des hochets en bois qui se tiennent bien, une progression aussi dans les hochets, développer tous les sens de l'enfant, développer la main de l'enfant, puis respecter ses périodes sensibles aussi. Ça, les parents ont tout à fait la possibilité de respecter ses périodes sensibles en observant son enfant, c'est-à-dire respecter beaucoup l'autonomie de l'enfant, c'est-à-dire que dès qu'il a envie de manger tout seul, le laisser manger tout seul. Quand il veut commencer à s'habiller tout seul, faire en sorte qu'il ait des habits qu'il puisse mettre tout seul, lui permettre de se laver tout seul en faisant peut-être une organisation pour qu'il ait un lavabo à sa taille, etc. Aussi dans la cuisine, hein, il y a un âge à partir du moment où ils marchent, où ils ont vraiment envie de tout faire comme l'adulte. Donc on peut organiser des choses dans la cuisine pour qu'ils puissent faire tout seul, qu'ils puissent presser une orange, qu'ils puissent mettre la table tout seul en mettant des étagères à son niveau et poser ses affaires sur ses étagères, faire dans le frigo une étagère à son niveau. En fait, il y a énormément de choses qui peuvent être faites à la maison et qui sont formidables pour l'enfant, en fait.
Tu peux nous donner juste quelques exemples de périodes sensibles ?
Alors, entre 0 et 6 ans, il y a plusieurs périodes sensibles. Là, il y a la période sensible de l'ordre. Alors, ça ne veut pas dire que l'enfant va être ordonné. Ça veut dire qu'il a absolument besoin de l'ordre. Parfois, on dit à un enfant, il fait un caprice, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que on a mis un objet à une autre place qu'il était d'habitude. Et ça, c'est pas possible pour un enfant quand il est dans cette période-là. L'ordre, ça veut dire aussi la routine. C'est-à-dire que l'enfant, il a absolument besoin d'une routine pour se construire sans stress. Hein, il n'a aucune idée de l'heure, il n'a aucune idée de ce qui va se passer après. Et donc, souvent, ça le stresse. Si une routine est mise en place, il se construit d'une manière très sereine. Après, il y a la période sensible de moteur, c'est-à-dire c'est là où il va développer toute sa motricité, hein, sa motricité fine, la main, mais aussi sa motricité globale. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut les laisser en motricité libre pour qu'ils puissent développer tout ça. Il y a la période sensible du langage, hein, donc là où ils vont apprendre à parler, là ils vont apprendre à développer leur vocabulaire, ce moment où ils peuvent apprendre facilement une deuxième langue, voire une troisième langue. Il y a la période sensible du développement sensoriel, donc c'est entre 0 et 6 ans aussi. C'est-à-dire que c'est un moment où il va pouvoir affiner ses sens vraiment au plus fin. Et puis, il y a une autre période sensible, c'est la période sensible de la relation sociale. Donc ça, c'est le moment où il va commencer, c'est entre 3 et 6 ans, où il va développer sa relation à l'autre. Et puis, la période sensible des petits objets. Alors ça, c'est le moment où il va être attaché à tous les petits détails. On voit quand on promène un petit enfant de 17-18 mois, et bien il s'arrête partout. Il va ramasser un petit caillou, il va regarder une fleur, ils vont s'arrêter tout partout. Donc les adultes, ça les énerve, ils le font avancer, alors que c'est très important. C'est là où il observe tout ce qui l'entoure. Voilà les périodes sensibles, en gros, c'est ça.
C'est fabuleux. Je me dis que ça fait beaucoup de choses à apprendre pour des nouveaux parents. Est-ce que tu aurais des choses à leur conseiller, potentiellement des lectures, des choses à regarder pour rentrer un peu plus dans le détail de ces mises en application?
Alors moi, je dirais qu'il faut lire des livres. Alors évidemment, nous, on a écrit un livre qui s'appelle Montessori pour les 0-3 ans, donc je vais le conseiller. Je dirais aussi qu'il y a des livres qui sont très intéressants. C'est les livres de Catherine Guéguen, qui est une neuroscientifique, qui a écrit un livre que moi j'aime énormément qui s'appelle Pour une enfance heureuse. Ça fait découvrir l'enfant, mais c'est extraordinaire. Je dirais que c'est pareil, nous on fait des formations pour les 0-3 ans et je pense que ça dure que 2 jours et on apprend plein de choses sur l'enfant et ça aide énormément. Après, je pense qu'il faut aussi s'écouter, hein, en tant que parent. Je pense que une des choses les plus importantes, c'est de se faire confiance à son enfant et se faire confiance. Parce que je pense que les parents, la maman, le papa ressentent des choses très fortes pour leur enfant et qu'il faut vraiment se faire confiance.
Ok, ben merci pour ces très belles paroles. C'est la fin de cet épisode, mais on reviendra très prochainement sur ce sujet-là. Donc merci beaucoup Sylvie.
Merci.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcasts. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclèves.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.